Chapitre 16. Maître Bretteur. Forme d'agilité délicate au toucher. Plus d'un l'a reçu des dieux pour être, une fois défié, par les dieux terrassés. Le don de cette forme est précieux. Extrait du chant du recensement de ceux qui écoutent, 27e couplet. Vous savez, déclara Moash à côté de Kaladin, j'ai toujours cru que cet endroit serait...
Plus grand,
suggéra Drei de sa voix teintée d'un léger accent. Plus luxueux, répondit Moash, balayant du regard le terrain d'entraînement. On dirait l'endroit où les soldats sombres iris s'exercent. Ces terrains d'entraînement étaient réservés aux pâles iris de Dalinar. Au centre, la grande cour ouverte était remplie d'une épaisse couche de sable. Une passerelle en bois surélevée contournait la zone, séparant le sable de l'étroit bâtiment qui l'entourait, large d'une pièce à peine. Il décrivait le tour de la cour entière, excepté sur l'avant, qui possédait un mur percé d'une entrée voûtée, ainsi qu'un large toit saillant vers l'extérieur qui plongeait dans l'ombre la passerelle en bois. Des officiers pâles iris bavardaient à l'ombre ou regardaient des hommes s'entraîner au duel dans la cour ensoleillée. Et des ardents allaient et venaient pour apporter des armes ou des boissons. C'était une disposition courante pour des terrains d'entraînement. Kaladin s'était trouvé plusieurs fois dans des bâtiments comme celui-ci, principalement à l'époque où il s'entraînait dans l'armée d'Amaram. Serrant la mâchoire, il posa les doigts contre l'entrée voûtée qui menait au terrain. Il s'était écoulé plusieurs jours depuis l'arrivée d'Amaram dans les camps de guerre. Plusieurs jours passés à s'habituer à l'idée qu'Amaram et Dalinar soient amis. Il avait décidé de se réjouir de cette arrivée. Après tout, elle lui fournirait enfin l'occasion d'embrocher cet homme au bout d'une lance. « Non, se dit-il en pénétrant sur le terrain d'entraînement. Pas une lance, un couteau. Je veux être tout près de lui, face à face, pour le regarder paniquer lorsqu'il mourra. » Je veux sentir ce couteau pénétrer. Kaladin fit signe à ses hommes et franchit la voûte, s'obligeant à se concentrer sur son environnement plutôt que sur Amaram. Cette voûte était faite d'une pierre de qualité, extraite dans une carrière toute proche, intégrée à un édifice renforcé à l'est selon la tradition. À en juger par les modestes dépôts de Crémon, ces murs n'étaient pas ici depuis très longtemps. Encore un signe indiquant que Dalinar commençait à considérer les camps de guerre comme permanents. Il faisait démonter des bâtiments simples et temporaires pour les remplacer par des édifices solides.
« Je ne sais pas à quoi tu t'attendais, »
dit Drei à Moash tandis qu'il inspectait le terrain.
« Comment voudrais-tu rendre un terrain d'entraînement différent pour les pâles iris, en utilisant de la poussière de diamant à la place du sable ?»«
Ouille !» répondit Kaladin. Comment, j'en sais rien, répliqua Moash. C'est juste qu'on en fait tout un foin. Pas de sombres iris sur les terrains d'entraînement spéciaux. Je ne vois pas ce qu'ils ont de spécial. C'est parce que vous ne réfléchissez pas comme les pâles iris, rétorqua Kaladin. Cet endroit est spécial pour une raison très simple.
Laquelle?
Demanda Moash.
C'est parce que nous n'y sommes pas, nous. Répondit Kaladin en ouvrant la marche pour entrer. Pas en temps ordinaire, en tout cas.
L'accompagnaient Drei et Moash, ainsi que 5 autres hommes, un mélange de membres du pont 4 et de quelques survivants de l'ancienne garde Cobalt. C'était Dalinar qui les avait affectés à Kaladin, et, à la grande surprise et au grand plaisir de ce dernier, il l'avait accepté comme chef sans protester. Ils l'avaient tous impressionné, sans exception. L'ancienne garde méritait sa réputation. Quelques-uns, tous sombres iris, avaient commencé à manger avec le pont 4. Ils avaient demandé des insignes du pont 4, et Kaladin leur en avait obtenu quelques-uns, mais leur avait ordonné de placer celui de la garde Cobalt sur l'autre épaule et de continuer à le porter en signe de fierté. Lance en main, Kaladin mena son équipe vers un groupe d'ardents qui s'approchait d'eux d'un air affairé. Les ardents portaient la tenue religieuse vorine, pantalons amples, tunique nouée à la taille par une simple corde. Des vêtements de pauvres.
Ils étaient des esclaves sans l'être vraiment. Kaladin n'avait jamais beaucoup pensé à eux. Sa mère se plaindrait sans doute du peu d'intérêt de son fils pour les observances religieuses. De son point de vue à lui, le Tout-Puissant ne semblait guère se soucier de lui, alors pourquoi le ferait-il en retour ?
« C'est le terrain d'entraînement des pâles iris, ici !» déclara l'ardent en chef d'une voix sévère.
C'était une femme élancée, quoiqu'on ne soit pas censé penser aux ardents comme étant masculins ou féminins. Elle avait le crâne rasé, comme tous les ardents. Ses compagnons de sexe masculin portaient des barbes carrées, avec la lèvre supérieure rasée.
« Capitaine Kaladin, pont 4 !» répondit-il en balayant le terrain d'entraînement du regard, et en posant sa lance sur son épaule.
Les accidents devaient très facilement arriver ici, au cours de l'entraînement. Il allait devoir y prendre garde.
« Je viens surveiller les fils Colline au cours de leur entraînement du jour. »«
Capitaine !» se moqua l'un des ardents. « Vous ?»
Un autre ardent le fit taire en chuchotant quelque chose. Les nouvelles concernant Kaladin avaient rapidement fait le tour du camp, mais les ardents se tenaient parfois à l'écart.
« Drei, lui dit Kaladin, doigt tendu. « Tu vois ces boutons de roche qui poussent là-bas, en haut du mur ?»«
Ouais ?»«
Quelqu'un les a fait pousser. Ça nous apprend qu'il existe un moyen de monter. »«
Évidemment !» lança l'ardente en chef. « L'escalier se trouve dans le coin nord-ouest. J'ai la clé. »«
Parfait. »« Dans ce cas, vous pouvez le faire entrer, lui dit Kaladin. « Drei, surveillez le terrain de là-haut. »
« J'y vais !»
acquiesça Drei, qui se dirigea vers l'escalier d'un pas dynamique.
« Et quel genre de risque pensez-vous qu'il puisse courir ici ?»
interrogea l'ardente en croisant les bras.
« Je vois beaucoup d'armes, » répondit Kaladin. « Beaucoup de gens qui entrent et sortent et... Tiens, ce sont des lames d'éclat là-bas ? Je me demande bien ce qui pourrait aller de travers. »
Il lui lança un regard appuyé. Elle soupira, puis tendit la clé à un assistant qui s'empressa de rattraper Drei. Kaladin désigna à ses autres hommes les positions à partir desquelles ils monteraient la garde. Ils s'éloignèrent en le laissant seul avec Moash. L'homme maigre s'était immédiatement retourné en entendant parler de lame d'éclat et les observait à présent d'un air avide. Les deux palziris qui les portaient étaient allés se placer au milieu de la zone sablée. L'une des lames était longue et fine, avec une large garde, tandis que l'autre était immense et large, hérissée de pointes menaçantes évoquant vaguement des flammes, qui saillaient des deux côtés le long du tiers inférieur. Les deux armes étaient munies de bandes protectrices le long des bords qui formaient un fourreau partiel.
« Chut !» lança Moash. « Je ne reconnais aucun de ces deux hommes. Je croyais connaître tous les porte-éclats du camp. »«
Ce ne sont pas des porte-éclats !» déclara l'ardente. « Ils utilisent les lames du roi. »
« Elokar laisse les gens utiliser sa lame d'éclat ?» demanda Kaladin.
« C'est une grande tradition, » répondit l'ardente, qui semblait contrariée de devoir s'expliquer. « Les hauts princes le faisaient dans leur principauté avant la réunification, et ce sont désormais une obligation et un honneur qui reviennent au roi. Les hommes sont autorisés à utiliser la lame et la cuirasse du roi pour s'entraîner. Les pâles iris de nos armées doivent être formés à utiliser les éclats, pour le bien de tous. » La lame et la cuirasse sont difficiles à maîtriser, et si un porte-éclat tombe au combat, il est important que d'autres puissent les utiliser immédiatement.
Il y avait là une certaine logique, même si Kaladin imaginait mal des pâles iris laisser quiconque toucher leur lame.
Le roi possède deux lames d'éclat.
L'une des deux est celle de son père, qu'il conserve pour former les porte-éclats selon la tradition.
L'ardente regarda les hommes qui s'entraînaient à combattre.
« Aletkar a toujours possédé les meilleurs porte-éclats du monde. C'est en partie grâce à cette tradition.
Le roi a laissé entendre qu'il accorderait peut-être un jour la lame de son père à un guerrier digne de ce nom. »
Kaladin accueillit cette réponse d'un hochement de tête.
« Pas bête, » approuva-t-il. « Je parie que beaucoup d'hommes viennent s'entraîner avec elle et que chacun espère prouver qu'il est le plus doué et le plus méritant. » Un bon moyen pour Elokar de duper ses hommes en les poussant à s'entraîner.
L'ardente s'éloigna avec un soupir excédé. Kaladin regarda les lames d'éclat fendre l'air. Les hommes qui les maniaient savaient à peine ce qu'ils faisaient. Les véritables porte-éclats qu'il avait vus, ceux qu'il avait combattus, ne se précipitaient pas dans tous les sens en agitant ces épées géantes comme des armes d'ast. Même le duel d'Adoline l'autre jour était...
« Kaladine, nom des bourrasques !» lança Moash en regardant l'ardente s'éloigner d'un pas furieux. « Et c'est vous qui me demandiez de leur témoigner du respect. Vous n'avez pas utilisé de titre honorifique pour désigner le roi, » expliqua Moash. « Et ensuite, vous avez sous-entendu que les Palsiris qui venaient s'entraîner étaient paresseux et qu'il fallait recourir à la ruse pour les attirer ici. Je croyais qu'on devait éviter de nous mettre les Palsiris à dos. »
Kaladine détourna le regard des porte-éclats. Tout à sa distraction, il avait parlé sans réfléchir. « Vous avez raison, » dit-il. « Merci de me l'avoir rappelé. » Moash hocha la tête. « Je veux que vous alliez vous placer près de la porte, » reprit Kaladine, doigt tendu. Un groupe de parches entra, portant des caisses qui devaient contenir des denrées alimentaires. Cela ne devait pas être dangereux. Du moins l'espérait-il. « Faites particulièrement attention aux serviteurs, aux messagers ou à toute autre personne qui approche des fils du haut prince d'Alinar. Il n'y aurait pas de méthode d'assassinat plus efficace qu'un coup de couteau dans le flanc donné par l'un de ceux-là. »«
Entendu. Mais dites-moi une chose, Gal. Qui est ce type, cet Amaram ?»
Kaladine se retourna vivement vers Moash.
« J'ai bien vu la façon dont vous le regardiez, » reprit Moash. Et la tête que vous faites quand les autres hommes de pont parlent de lui, que vous a-t-il fait ?
J'ai appartenu à son armée, répliqua Kaladine. Le dernier endroit où je me sois battu avant... Moash désigna le front de Kaladine.
Alors ça, c'est son œuvre ?
Ouais.
Donc, il n'est pas le héros pour lequel tout le monde le prend, répondit Moash.
Cette idée semblait le satisfaire. C'est l'une des âmes les plus noires que j'ai connues. Moash prit Kaladine par le bras.
On finira bien par se venger d'eux, Sadeas, Amaram, tous ceux qui nous ont fait ces choses-là.
Des sprènes de colère apparurent autour de lui dans le sable, pareilles à des flaques de sang. Kaladine croisa son regard, puis hocha la tête.
Ça me va. Déclara Moash, qui posa sa lance sur son épaule avant de rejoindre l'emplacement indiqué par Kaladine, tandis que les sprènes se dissipaient.
« En voilà encore un qui devrait apprendre à sourire un peu plus !»
chuchota Syl. Kaladine n'avait pas remarqué qu'elle voletait tout près. Elle vint se poser sur son épaule. Kaladine se retourna pour faire le tour du terrain d'entraînement, notant où se trouvait chaque entrée. Peut-être faisait-il preuve d'une prudence excessive. Simplement, il aimait le travail bien fait. Et il y avait une éternité qu'il n'avait pas eu d'autre mission que de sauver le pont 4. Cependant, sa tâche lui semblait parfois impossible à accomplir correctement. Lors de la tempête majeure de la semaine précédente, quelqu'un s'était de nouveau infiltré dans les appartements de Dalinar pour griffonner un autre chiffre sur le mur. Il semblait marquer un compte à rebours indiquant la même date, un peu plus d'un mois plus tard. Le haut prince ne semblait pas inquiet et voulait garder l'incident secret. Nom des bourrasques ! Écrivait-il ces glyphes lui-même lorsqu'il avait des crises ? Ou s'agissait-il d'une sorte de sprène ? Kaladine était persuadé que personne n'avait pu entrer à son insu cette fois-là.
« Tu veux parler de ce qui te tracasse ?»
lui lança Syl depuis son perchoir. « Je m'inquiète de ce qui arrive à Dalinar pendant les tempêtes majeures, » répondit Kaladine. « Ces chiffres, quelque chose ne tourne pas rond. Tu vois toujours ces sprènes qui se baladent ?»«
Les éclairs rouges ?» demanda-t-elle. « Je crois, oui. Ils sont difficiles à repérer. Tu ne les as pas vus ?»
Kaladine secoua la tête, leva sa lance, et se dirigea sur la passerelle qui faisait le tour de l'arène. Là, il jeta un coup d'œil dans une réserve. Des épées d'entraînement en bois, dont certaines faisaient la taille de lames d'éclat, et des armures de cuir s'alignaient le long du mur.
« C'est tout ce qui te tracasse ?»
demanda Syl. « Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ?
Amaram et Dalinar.
Il n'y a rien là de très grave. Dalinar Colline est l'ami d'un des pires meurtriers que j'ai jamais rencontrés. Et alors, Dalinar est un pâle iris. Il doit être ami avec beaucoup de meurtriers.
Kaladin, répondit-il.
Amaram est pire que Sadeas, tu sais, reprit Kaladin en faisant le tour de la réserve à la recherche de Porte. Tout le monde sait que Sadeas est un rat. Il se montre très franc sur ce point. Il m'a dit « Vous êtes un homme de pont et je vous exploiterai jusqu'à votre mort. »
Amaram, en revanche, il promettait d'être bien plus que ça, un clarissime comme ceux des histoires.
Il m'avait dit qu'il protégerait Tyène. Il se faisait passer pour honorable. C'est bien pire que tout ce que Sadeas pourrait commettre.
« Dalinar n'est pas comme Amaram, »
objecta Syl.
« Tu le sais très bien. »
Les gens parlent de lui exactement comme ils parlaient d'Amaram, comme ils parlent toujours d'Amaram. Kaladin sortit à la lumière du soleil et poursuivit son tour du terrain, passant devant des pâles iris en nage qui se battaient en duel, soulevant du sable avec des grognements et faisant s'entrechoquer leurs épées en bois. Chacun des duos était accompagné par une demi-douzaine de serviteurs sombres iris, munis de serviettes et de bidons, et beaucoup avaient un ou deux parches pour leur apporter des sièges ou s'asseoir lorsqu'ils se reposaient. Père des tempêtes, même dans des occasions aussi ordinaires, les pâles iris devaient être dorlotés. Syl volta devant Kaladin et descendit comme une tempête, littéralement. Elle s'arrêta juste en face de lui, avec un nuage qui jaillissait de sous ses pieds en dégageant des éclairs.
« Peux-tu affirmer en toute franchise, » demanda-t-elle d'une voix insistante, « que tu crois réellement que Dalinar Colline fait semblant d'être honorable ?»«
Je... »«
Ne me mens pas, Kaladin, » dit-elle en s'avançant, le doigt tendu.
Toute minuscule qu'elle soit, elle semblait aussi immense qu'une tempête majeure.
« Pas de mensonge, jamais !»
Il prit une profonde inspiration.
« Non !» répondit-il enfin. « Non, Dalinar a renoncé à sa lame pour nous. C'est quelqu'un de bien. Je l'accepte.
Amaram le mène en bateau, mais il l'a fait pour moi aussi, alors j'imagine que je ne peux pas trop en vouloir à Dalinar. » Syl hocha brusquement la tête et le nuage se dissipa.
« Tu devrais lui parler d'Amaram, »
dit-elle, marchant dans les airs près de la tête de Kaladin, tandis qu'il poursuivait sa reconnaissance de l'édifice. Syl faisait de petits pas et aurait dû se laisser distancer, mais il n'en fut rien.
« Et que veux-tu que je lui dise ?» demanda Kaladin.
« Que j'aille le voir pour accuser un pâle iris du troisième Dan d'avoir assassiné ses propres soldats ? De m'avoir volé ma lame d'éclat ? Je passerai pour un idiot ou pour un fou. »
« Mais il ne m'écoutera pas, Syl, » l'interrompit Kaladin.
« Dalinar Colline est peut-être quelqu'un de bien, » mais il ne me laissera pas dire de mal d'un pâle iris puissant. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et c'est la vérité. »
Il continua son inspection, désireux de savoir ce qui se trouvait dans les pièces d'où les gens pouvaient regarder les autres s'entraîner. Certaines étaient destinées à l'entreposage, d'autres au bain et au repos. Plusieurs de celles-là étaient verrouillées, car des pâles iris s'y trouvaient pour récupérer de leur entraînement du jour. Les pâles iris aimaient les bains. Le côté arrière de l'édifice, à l'opposé de la porte d'entrée, accueillait les logements des ardents. Kaladin n'avait jamais vu autant de crânes rasés et de corps vêtus de robes aller et venir précipitamment. Lorsqu'il habitait à Pierre d'Âtre, le bourgmestre ne conservait qu'une poignée de vieux ardents ratatinés pour instruire son fils. Il descendait parfois en ville pour brûler des prières et élever l'évocation des sombres iris. Ces ardents-ci semblaient très différents. Ils étaient bâtis comme des guerriers et intervenaient souvent pour s'entraîner avec des pâles iris en quête de partenaires. Certains des ardents avaient les yeux sombres, mais utilisaient l'épée malgré tout. Ils n'étaient pas considérés comme des pâles iris ni des sombres iris, simplement comme des ardents.
« Et qu'est-ce que je ferais si l'un d'entre eux décide d'essayer de tuer les princes Aion ?»
Bourrasque. Comme il détestait certains aspects de la corvée de garde du corps. Si rien ne se produisait, on ne savait jamais avec certitude si c'était parce que tout allait bien ou parce qu'on avait découragé des assassins potentiels.